Oasis interdite par Ella Maillard. Un voyage loin, très loin du confinement. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel on part sur les traces d'Ella Maillard vers les oasis interdites. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un très bon lundi. Aujourd'hui, on continue. Alors, on s'était arrêté à la moitié d'un chapitre que je suis en train de retrouver. En tournant les pages de ce petit livre. Donc, on s'était fait l'histoire du Xinjiang. Ça, c'est bon. Nos deux explorateurs, espions, journalistes étaient arrivés à Koh Tan, la capitale de Dzungaré. Rappelez-vous. Et ils visitaient la ville, effectivement. Donc, on est au chapitre 10. Koh Tan, capitale de la Dzungarie, et on était au milieu de l'histoire. Ces messieurs interrompent leur jeu de cartes pour nous saluer. Ils ne parlent pas l'anglais, mais plusieurs mots de cette langue tels que « times » et « tout se passe » leur sont familiers. L'un d'eux, qui arrive à l'instant, tient une seringue à la main, ainsi que des produits pharmaceutiques allemands et anglais. Peter, qui a décidé de redevenir respectable, leur emprunte aussitôt une lame de rasoir. Au milieu d'un verger touffu, on nous conduit vers un petit kiosque orné de tapis et ouvert de tous côtés qui nous servira de logement. Là, soir et matin, nous entendrons les recrues s'exercer inlassablement à sonner du clairon, tandis qu'à tue-tête, leurs camarades répètent des chants turquis. L'Aksakal est absent de Koh Tan, mais son secrétaire afghan veille à ce que nous ne manquions de rien et Sédic est attaché à notre service. Il couche au jardin, dans une carriole désaffectée, et toute la nuit, à quelque heure que je me réveille, je vois la lueur de sa petite lampe à opium. Le matin, quand nous avons besoin de lui, hagard et pâle, Sédic ressemble à un spectre. C'est lui qui nous aide à comprendre ce que raconte le secrétaire, très fier d'avoir lu à Kaboul une histoire traduite du français où un homme génial, un prince hindou révolté contre des usurpateurs, passe sa vie dans un sous-marin. Il s'agit du capitaine Nemo et de 20 milieux sous les mers. Et cette histoire, évoquée à Koh Tan, si loin de l'océan le plus proche, semble plus fabuleuse que jamais. Derrière le mur de notre verger, à l'ombre d'une immense treille, la famille de l'Aksakal habite une vieille et sombre maison. C'est là que je prépare 3 kilos de confiture aux abricots, car c'est à peu près la seule chose que nous ayons plaisir à manger en cours de route pendant ces grandes chaleurs. Au sommet d'un bahut, il y a des jarres pleines de confitures de roses entourées de guêpes bruyantes. Dans les chambres, des théières de faïence ornent les niches ménagées dans les murs et j'admire aussi un vieux Coran entouré d'une étoffe précieuse. Les femmes me montrent les soies qu'elles ont tissées avec leurs propres cocons et les vieilles monnaies trouvées dans le désert, ainsi qu'un manuscrit semblable à ceux qu'Orelstan a rapporté. Devant notre kiosque, le lendemain matin, je vois arriver un baudet surmonté du drapeau anglais et sur la ceinture de cuir de lanier brille une plaque métallique portant les mots étonnants « British Indian Postman ». Nous sommes à 45 jours des Indes, et le courrier consulaire mensuel vient d'arriver. Le grand sac de cuir rouge est vidé, laissant voir à Peter excité au plus haut degré une quantité de Times hebdomadaires. Ces journaux ne sont pas adressés à l'Aksakal qui ignore l'anglais, mais à un certain monsieur Moldavac. C'est un Américain qui vit à Koh Tan, et chez qui nous empressons de nous rendre. Notre premier Européen. Dans une chambre bien tenue, aux murs couverts de livres, nous rencontrons un très vieux monsieur qui sait le français et l'anglais, appris à Constantinople, où il a fait ses études. Cet homme charmant peut à peine marcher. Il est très malade, affligé d'un éléphantiasis que le médecin de Kashgar déclare incurable. Commerçant en soie et tapis, il s'est établi ici il y a 26 ans. Puis lors de la révolution bolchevique, il a perdu tout son argent déposé dans une banque du Turkestan russe et s'est remis à travailler, dirigeant les artisans qui fabriquent ici des tapis. Il a cherché à perpétuer les vieilles traditions qui ont fait la réputation de Khotan et me montre un livre dédicacé par Orelstein, aux bienfaiteurs de l'industrie des tapis de Khotan. Mais depuis que l'État a pris le monopole de tout dans le pays, il ne peut plus empêcher la mauvaise fabrication actuelle. Il nous confirme que la situation générale est assez mauvaise. Tous ceux qui peuvent se découvrir les liens avec l'Aksakal britannique, et même ceux qui n'y parviennent pas, accrochent un drapeau anglais sur leur maison, car cela les préserve des confiscations ordonnées par le dictateur Mao San. Tout en buvant du café, nous parlons des différents Européens qui vinrent autrefois à Khotan. Monsieur Moldavac est inquiet du sort subi par un Tchèque venu d'Afghanistan et arrêté à Khotan après qu'il eut, pendant quelque temps, imprimé des billets de banque à Kashgar pour le compte de l'éphémère République musulmane. C'est le même jeune homme dont on vous avait parlé à Tchertchène. Monsieur Moldavac nous pose des questions très précises sur la situation européenne. Puis il s'étonne du discours du Premier ministre japonais, où il est affirmé que le Japon a un intérêt primordial à empêcher l'URSS de s'établir au Xinjiang. N'est-il pas curieux que la politique mondiale vienne éveiller un écho jusqu'ici dans la chambre de cet exilé derrière la triple barrière de l'Himalaya, du Karakoram et des Kuen-Lun? Ayant regagné cette estrade aérée, Peter dévore les Times, vieux de 3 mois qui nous ont été prêtés, et où il trouve des nouvelles de ses amis. Ce n'est pas sans un certain plaisir qu'il voit sa prose sur le Manchukuo y figurer en bonne place, et j'aperçois dans la page illustrée le portrait de l'auteur fait par mon Leica. Hélas, pas de danger de voir apparaître ici des exemplaires de mon petit Parisien. Dieu sait quel nouveau scandale financier occupe le public français, pour qui la politique continentale du Japon est encore à l'état de nébuleuse. Et sans doute, mes articles bourrés d'actualité sont-ils en train de se défraîchir dans un tiroir. Pendant que je me laisse aller à des idées noires, Peter commence à se douter que son pays vient de fêter un émouvant jubilé. Et je le vois montrant à notre entourage un chromo de George V en disant que c'est son roi, photographié par ce même journal qu'il envoie chez eux. Les deux piliers du pouvoir. Ces deux piliers, ce sont l'Aksakal et la monnaie. Cette dernière ne paye pas de mine. Dans la grande rue, c'est une maison chinoise comme une autre, gardée par un plantron. Sur les dalles de la cour sèchent au soleil des milliers de rectangles de couleur. Ce sont les billets de banque de la République d'Ungan que des garçons accroupis empilent par paquets de 100. Dans les chambres, derrière les fenêtres de papier, dans une atmosphère alcoolisée par les émanations des couleurs, des hommes munis de tampons bleus, noirs, rouges et verts impriment inlassablement des billets sur un papier d'écorce de mûrier. On en fait 30 000 par jour depuis 12 mois, nous dit le directeur. Mais cela est loin de suffire. Il faudrait pouvoir en faire le double, avoue-t-il. Ce sont ces mêmes billets dont nous avons reçu des piles en échange de quelques dollars. Il faut une valise pour les transporter. Et nous n'en comprendrons jamais la valeur, car elle varie sans cesse. Au cœur de l'Asie même, l'inflation est apparue comme avec son cortège de conséquences. Quant à l'arsenal, logé dans plusieurs bâtiments misérables, un jeune homme pâle et sympathique, qui nous voit passer dans la rue, nous a prié d'y entrer. Il n'y règne pas la même activité qu'à la monnaie. Dans une salle d'exposition sont alignés une douzaine de canons chinois, peints en vert et en bleu, ainsi que leurs caisses d'obus. Plus loin, on fabrique des affûts. Des moules à grenades sont rangés dans une cour et des jeunes filles sont occupées à démonter des fusils. Au-dessus d'un bol de thé, ce charmant jeune homme nous confie que les munitions abondent. Il semble heureux de parler à des étrangers venus du lointain Kansu, sa province natale, et nous avons toutes les peines du monde à empêcher qu'il ne commande de la soupe pour nous. J'aime cette aisance innée et souriante du vrai chinois qu'on retrouve toujours et qui ajoute au charme d'un voyage en Chine. Le dictateur Mao San. De même que la plupart des villes du Turkestan, Khotan est partagé en cités turques et cités chinoises. C'est dans cette dernière que résident les oppresseurs actuels de Yutian, la ville du jade, comme est appelée Khotan en chinois. Si les boutiques minuscules garnies d'étagères sont semblables dans les deux cités, par contre la population est différente. Moins de Turquie en robe longue et de femmes au carré de mousseline sur la tête, dans la ville des conquérants mais des Chinois à petites vestes courtes, aux pantalons serrés à la cheville. De bavardes chinoises en cheveux, aux pantalons de satin brillants. Et les femmes du Kensou ont gardé leurs curieux turbans noirs qui les font ressembler à des douanières. Douéières, pardon. Dans la rue glissante, arrosée par l'eau qu'on puise à la rigole voisine, des centaines de chevaux vont à l'abreuvoir. Mais le plus étonnant, ce sont les régiments qui défilent sans cesse. Les Dungans terribles, vêtus de pyjamas blancs, tous coiffés du drapeau de piquets au bord large qui ondule comme un volant, reprennent sans cesse les couplets de leurs chants martiaux. Ou bien ce sont les conscrits, où jeunes et vieux font le pas de loi avec de grands mouvements de bras. Leurs crânes ronds et tondus sont atteints souvent de la pelade si fréquente dans le pays, et je vous assure qu'ils n'ont pas l'air de s'amuser. Nous les admirons pendant que nos cartes de visite sont portées au général Matsusa, qui nous attend cet après-midi. Une coutume antérieure à Jésus-Christ veut qu'en Chine, on échange sa carte nom sitôt qu'on est présenté à quelqu'un. Aussi faut-il se munir de plusieurs centaines de ces cartons lorsqu'on voyage. Introduit enfin dans la cour d'un immense yamen, nous évitons les bâtiments et parmi les arbres, gagnons une maisonnette basse, dans une chambre aux fenêtres garnies de vitres, aux portes doublées de gaz contre les mouches. Assis au bord d'une table de conseil, nous attendons le chef. Dans un coin brûle un bâtonnet au dos riz ferrant. Et nous nous répétons toutes les questions auxquelles nous espérons qu'on nous répondra. Mao Tsan entre. Portant le même vêtement de coton blanc que ses hommes, il est bien découplé, haut sur jambes. Sa tête ronde au trait régulier et impassible n'a rien de chinois. Seules les pommettes, haut placées, et un peu saillante combinée avec son petit nez et son front court, empêcherait qu'on le prenne pour un Européen. Calme et décidé, il nous interroge, et pour la centième fois, nos réponses s'égrènent comme une litanie. Nous arrivons de Pékin, que nous avons quitté il y a 5 mois. Nous n'avons pas passé par Hami et Tungwang, fermés aux étrangers. Nous venons des montagnes du sud, et puissent ce long voyage excuser notre garde-robe en défaut lorsque nous devons visiter de grands personnages. Peter est anglais, je suis suisse, et nous voyageons pour 2 grands journaux. Nous ne savons pas le turki et très mal le chinois. Nous nous rendons à Kashgar, et nous serons cet automne en Europe. Le général Ma est surtout curieux de savoir ce que Nantin pense des Dungans. En effet, Ma, bien loin d'accepter la qualité de rebelle décernée par le gouvernement, se prétend sujet fidèle qui veut libérer Urumqi de l'emprise étrangère. Que pense-t-on en Chine de Chen Qitse, le toupan qui s'est nommé lui-même gouverneur? Puis il veut savoir si lors de notre passage à Sining, le général Ma Pufang, auquel nous nous étions bien gardés de raconter nos projets, ne nous a pas interdit le dangereux voyage de Khotan. Nous conversons en un anglais primitif grâce au truchement d'un Dungan enveloppé d'un manteau et qui grelotte de fièvre. Le jeune dictateur nous confirme que des délégués de Ma Pufang de Sining sont en ce moment à Khotan. Un homme a été envoyé par lui-même à Nankin afin d'y exposer la thèse des Dungans qui ont besoin d'une aide. En effet, Mao Tsan nous fait part des problèmes qu'il a à résoudre. Ses principales difficultés proviennent avant tout de ce que le télégraphe ne relie pas toutes les oasis. Puis la pénurie d'argent est grave, car toutes les fortunes déposées à la banque d'Urumqi sont tombées entre les mains du gouvernement chinois. Et si quelques marchands de Khotan possèdent de l'or, ils l'ont bien caché. Ensuite, Ma est très handicapé par le manque d'avions. Ma a bien approché les Anglais à ce sujet, mais sans succès. Et je me souviens que les Aksakals rencontrés jusqu'ici déploraient que la Grande-Bretagne ne veuille pas prêter les aéroplanes aux Dungans dans leur lutte anti-bolcheviste. Les bombes lancées par les avions répandent des gaz terribles, dit-il. Et il est clair que lors de la bataille de Tanung, Ces bombes ont fait fuir tout le monde. Le général essaye de faire fabriquer des masques et nous demande si nous connaissons les compositions chimiques dont il faut les imprégner. Quant aux munitions, il en possède suffisamment et les fusils glanés au cours des batailles passées sont loin de faire défaut. Puis Ma nous prie de transmettre ses compliments au consul anglais de Kashgar ainsi qu'aux missionnaires suédois qui le soignèrent dans leur hôpital. Au début de la guerre, Ma avait eu une fracture compliquée du fémur et sa jambe avait alors été sauvée par le docteur Hummel de l'expédition Sven Hedding, internée à Turfan en 1934. Enfin, le plus innocemment du monde, nous en venons à demander au général s'il a de bonnes nouvelles de Ma Junin, qui doit être son cousin, à ce que je crois. Gars, Soling est parti en expédition depuis un an, nous répond-il, et selon sa dernière lettre, il doit revenir bientôt. Nous avons beaucoup entendu parler de lui et de sa bravoure, dit Peter, et nous regrettons de ne pas avoir l'honneur de faire sa connaissance de ce grand chef. Mais peut-être pourrions-nous l'admirer en photographie ou même emporter son image célèbre jusqu'en Europe ? Sans doute, rien n'est plus facile, dit Maoussan, flatté. Il va chercher une photo dans la chambre contiguë où je vois par la porte une grande glace en pied. Peter me lance un coup d'œil triomphateur, car nous avons sous les yeux le portrait de Ma Junin en uniforme de cavalerie soviétique. C'est un grand homme bien bâti, à la chevelure non tondue, contrairement à la coutume d'Ungan. Quoique le soleil soit déjà couché, nous sortons dans la cour pour photographier le dictateur encadré de ses gardes du corps armés de parabellum. Pour cette occasion, le général a vite revêtu un uniforme de coutil kaki aux culottes étroites, qui lui va très bien. Nous prenons enfin congé de cet homme énergique dont nous entendrons peut-être encore parler dans l'histoire de l'Asie centrale, car il semble décidé à repartir un jour ou l'autre en guerre contre le Nord. Pour cela, il n'aura pas besoin de faire de détour par Kashgar ou même la piste principale. Il traversera le désert directement à Aksou en suivant la rivière de Khotan. Chapitre 11. Sous le signe de Potaï. L'Aksakal Badruddin Khan est revenu à Khotan la veille de notre départ. C'est un Afghan âgé déjà et qui a vu nombre de consuls anglais succéder à Kashgar au cours des 30 dernières années. Corpulent, ses robes désordonnées et maintenues en place par une large ceinture à gousset, il sait se faire obéir. Tout son monde, fort paresseux au naturel, s'affaire quand il paraît. Les théières sont renouvelées, les chasse-mouches agitées, et de grands tapis sont pendus à l'entour de notre kiosque pour nous protéger du vent de sable qui assombrit Khotan de ses masses denses de poussière jaune. Il nous parle de Kashgar, des Russes qui s'y trouvent, d'un hôpital merveilleux. Au consulat britannique, dit-on, il y a une grande maison fleurie avec de l'eau qui coule quand on tourne une vis, et à l'intérieur se trouvent d'énormes fauteuils. Il nous semble que depuis des années, nous n'avons fait que nous asseoir à la turque. Quant au consul lui-même, il est dans la montagne pendant les chaleurs, et cette nouvelle anéantit tous nos rêves de paradis kashgarien. Dans 10 jours, nous arriverons à Yartken, la première ville qui, sur notre route, dépend du gouvernement provincial d'Urumqi. Les autorités y seront-elles plus tracassières que celles de Dungani ? Nous aurons tout le temps de nous poser cette question au cours des étapes qui nous en séparent. Nous sommes repartis en compagnie de Sédic, qui, malgré son nom qui veut dire « franc », ne nous aspire pas confiance. À tort, il prétend que l'Aksakal l'a chargé de nous accompagner, et en dépit de ses talents de linguiste, nous décidons de nous défaire de lui. Il se meut comme un halluciné qui serait raisonnable, et toute la nuit dans la cour de l'auberge à Karakash, une fois de plus, je vois brûler sa petite lampe à drogue. Aussi, le lendemain, lorsque nous partons de bonne heure, nous le laissons derrière nous, encore assommé de fatigue. Si j'ai pu observer Sédig de la sorte, c'est que j'ai à peine dormi. Mes ennemis personnels, les puces, m'ayant prise une fois de plus pour un champ d'exercice. Toute la nuit, je leur ai fait une guerre mortelle, aidée de ma lampe de poche, et voilà bien le plus exaspérant du voyage à mes yeux. Comment leur échapper ? Tout autour de la cour, couverte des auberges, Les clients s'allongent sur de petites plateformes en terre que le patron s'empresse de garnir d'un tapis de feutre lorsque vous arrivez. Malgré toutes mes tentatives, je dois renoncer à faire admettre que je préfère la terre battue aux couvertures où se cachent les parasites. Nous passons d'autant mieux de Sédic que l'Axakel nous a donné le serviteur jugé indispensable aux voyageurs que nous sommes. C'est Niaz, timide garçon dégingandé, aux pieds plats et nus, simple d'esprit et dont la souquenille s'orne d'un emblème britannique. Il est orphelin et nous pouvons l'emmener jusqu'à Londres si nous voulons. Il a une bouche énorme, un nez en l'air, et prétend savoir le chinois parce qu'il jette quelques mots de cette langue dans son turquie rendu aussi incompréhensible. Chaque jour, lorsqu'il vient nous dire que les ânes repartent, il commence par pointer son menton vers les quatre points cardinaux avant de dire « Tsola, allons ». Nous sommes maintenant dans un pays riche et les oasis sont proches les unes des autres. Chaque fois qu'il y réside, un maire, nous devons renouveler chevaux, ânes et âniers en les payant selon un modeste tarif. Cette obligation est des plus ennuyeuses car Peter doit chaque fois palabrer chez les Sianguiers, les maires. En effet, il est rare que Niaz, muni de nos cartes de visite, parvienne à recruter de nouvelles bêtes. Et pour plus de sûreté, nous ne relâchons nos âniers que lorsque les nouveaux sont arrivés. En général, nous avons des chevaux dont personne n'a voulu et il faut les cravacher sans cesse, ce qui ôte beaucoup de charme au voyage. Entre les oasis de Zaoua et de Pialma, une masure s'élève au milieu du désert, tout près d'une tombe vénérée. Un vieil homme vivote là, grâce aux aumônes, et la tradition veut qu'on offre une plâtrée de maïs aux pigeons qui y nichent par centaines. Lorsqu'ils s'abattent tous et se battent pour la conquête des grains, le ciel s'obscurcit et l'on craint d'être étouffé par ce nuage froufroutant. À Moji, où nous arrivons au milieu du quatrième jour, je ne résiste plus à la tentation. J'ai vu tant d'eau murmurante dans la campagne que, dans un champ à l'abri d'une haie, je me plonge dans un canal d'eau froide et rapide. Rentré à l'auberge, j'y trouve Peter qui, étendu comme un pacha, écoute les confidences de jeunes Dungan entraînés par Ma il y a 2 ans. Ils regrettent leur village natal dans l'est lointain. Peter a-t-il disparu ? Ce soir-là, nous arrivions à Gouma, riche oasis où le bétail tourne en rond sur les airs à fouler le blé. Les chants hurlés par les paysans effraient parfois ma monture. Jument pleine de vie pour une fois, et grâce à laquelle la journée a été parfaite. En l'absence de l'Axakal, où on nous fait entrer dans une cour d'allée, et je vois un tableau noir dans une chambre. Un docteur arrive sur ces entrefaites avec 2 garçonnets aux immenses yeux noirs. C'est un Indien installé depuis 2 ans à Gouma, et c'est dans la chambre au tableau noir qu'il donne des leçons aux enfants des sujets britanniques. Ses affaires vont bien, car il est le seul à pouvoir traiter les maladies vénériennes dont la majorité de la population est atteinte. Mais il ne sait comment s'y prendre pour sauver ses économies depuis que la monnaie du pays perd chaque jour de la valeur. Un Dungan russe de Tashkent nous rend ensuite visite. Il a quitté sa ville en 1934 parce que la farine y devenait introuvable. Heureux de pouvoir converser, nous l'accablons de questions, nous souvenons que, somme toute, notre métier est d'enquêter. L'influence soviétique se fait sentir de plus en plus à Kashgar, dit-il. Et, entre autres choses, une école et un théâtre y ont été créés à l'instar de Tashkent. Le lendemain matin, au lieu des animaux commandés, arrivent le maire et son secrétaire pour nous faire subir un interrogatoire. Ils prennent des notes, demandent nos passeports et entraînent Peter à leur suite. La matinée se passe. Pas de Peter, ni même un message de sa part. Midi, 2 heures. Je suis inquiète. Le Dungan de la veille a-t-il fait un rapport sur le genre de questions que nous posions et notre enquête déplairait-elle à quelqu'un? Si Peter est arrêté, il ne faut pas que je me laisse prendre aussi. Niaz, partons. Avec les vieux ânes, tant pis. Mais voici Peter, flegmatique comme à l'ordinaire. Il a retourné une situation qui, au début, nous était moins que favorable. Il avait dû aller chez le général de brigade. Celui-ci affirmait que nous n'avions pas d'autorisation pour nous promener au Xinjiang. Peter, fil étonné, prétendit que son passeport devait avoir aussi bien que le mien le mot Sinkion dans un coin, puis il s'empressa de demander si le consul britannique, venant à notre rencontre, avait déjà quitté Yarkand. Et enfin, il se lança dans une conversation générale sur les guerres de Mandchourie, comme si la compagnie du général lui était fort agréable. Ce dernier avait fini par s'amadouer et commander les bourricots dont nous avions besoin. Nous voilà repartis. Je me demande comment, livré à moi-même, je serais sorti de ce mauvais pas de Gouma. Peut-être, à vrai dire, que le général eût trouvé au-dessous de sa dignité de s'occuper d'une femme comme moi. Mais une fois que, de plus, j'admire Peter. Pour être franche, moi qui ne fais tout qu'avec peine, j'envie encore plus que je n'admire la facilité, l'indésavolture même avec laquelle Peter subjugue tout ce que la vie se plaît à mettre sur son chemin. Désert, dunes et gravier à perte de vue. Depuis que nous avons quitté Koh Tan, tous les 5 km des bornes fort originales jalonnent la route et nous permettent de contrôler notre avance. Ce sont des pyramides tronquées, construites en briques par les Chinois, des tours de garde ou potaï que nous voyons surgir d'heure en heure, avec régularité au bord de la piste. Grâce à ces repères, le désert semble aujourd'hui être apprivoisé. À la nuit tombante sur l'horizon, aucune ligne embrumée ne surgit pour indiquer la végétation d'une oasis. Plus tard seulement, quand l'obscurité est complète, nous dépassons un arbre et gravissons une éminence couronnée par l'important fort de Chulak. La première cour est un caravansérail. Dans la seconde, réservée aux troupes, on nous offre une cellule, dont l'épais mur de pierre est percé d'une cheminée. Le sixième jour, après une marche de 5 heures dans le désert jalonné de carcasses, nous arrivons à Kargalik, oasis où aboutit la route de Karakoram, qui vient des Indes en passant par les. C'est ce qui faisait dire au Dungan, vu à Gouma, que les Anglais ne laisseraient pas Kargalik tomber aux mains du gouvernement provincial contrôlé par les Soviets. C'est jour de marché, et nous croisons tous ceux qui s'en retournent avec des étoffes et des fuseaux de coton blanc, semblables à d'énormes toupies. Dans l'eau de la rivière où plongent les racines des saules, des muletiers immergent pour les ramollir des galettes qui ont sans doute traversé le Tibet avec eux. Niaz nous mène chez Laksakal, un obséquieux afghan, jeune et maigre, qui fume la pipe à eau en compagnie de quelques voisins. Au quartier des cuisines, j'entends le brave Niaz annoncer que nous mangerons très volontiers œufs, riz et poulet, comme tout le monde. Il y a longtemps que nous n'avons pas fait un vrai repas. Deux vieilles femmes, voyant que j'ai de la peine à me relever à cause de mon dos raide, se mettent en devoir de me frotter énergiquement, non sans une certaine science. Frontière. Le 16 juillet, nous suivons depuis quelques heures une grande route ombragée lorsque nous sommes arrêtés par des soldats d'Ungan qui demandent nos papiers. Sans savoir si cela signifie un danger, nous nous empressons de les photographier, ce qui flatte toujours ces vaniteux. On rit de leur pose et finit par barloter avec le lieutenant. Selon la mode asiatique, ces soldats ont muni leur fusée d'une fourche de pointage et l'ont fixée au moyen d'un morceau de fer blanc portant les lettres « Cherry ». Voilà comment finissent les boîtes de cigarettes japonaises importées des Indes. Ce dernier poste d'Ungan avant la zone démilitarisée qui s'étend jusqu'à Yarkand nous laisse repartir sans difficulté. Le pays est riche, l'eau coule partout. Les petites rizières inondées sont autant de miroirs clairs dont la surface est percée déjà par quelques aiguilles vertes. Chaque fois qu'un canal traverse la route, penché sur l'encolure de ma bête, j'arrive à y plonger ma petite gourde garnie de laine et en 10 minutes, l'eau qu'elle contient est rafraîchie grâce à l'évaporation. Et de quelques marais pleins de roseaux monte une odeur de vase. Nous passons la nuit à l'auberge de Posgam, village accueillant où le maire réquisitionne des lits à notre usage, et nous avons beaucoup de peine à lui faire comprendre que nous préférons nos sacs à puces. Le lendemain, anxieux de savoir comment nous allons être admis par le gouvernement du Sinkiang, nous traversons le large Yarkden Noria, ou Tarim, en bac. Niaz n'est pas content. Il a peur de ne jamais pouvoir s'en retourner à Koh Tan, car il a entendu des histoires de contrebandiers et de frontières fermées. Au premier poste militaire qui barre la route, nous sommes arrêtés par un soldat. Au-dessus de la porte flotte, de même que chez les rebelles, l'emblème du Kuomintang. Pour mieux nous regarder, on nous invite à boire le thé, à manger des œufs cuits dans des cendres et à savourer des abricots mûrs. À l'ombre d'un arbre, des hommes campent en désordre, contrairement à ce qui se passe chez les Dungan. Et comme nous demandons pourquoi on barre la route à certains indigènes dépourvus de passeport, la classique réponse chinoise. Ce sont des touffés. Rappelez-vous, ça veut dire pirate. Et nous fait rire une fois de plus. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On n'a pas fini ce chapitre, mais il y a un nouveau paragraphe qui commence demain avec Yarkand. Je vous souhaite une excellente après-midi et je vous dis à bientôt. Enfin, c'est demain 14h sur Campus Grenoble ou sur le player de Radio Campus France. Bonne journée !